Bonsoir à tous, il vient d'être à 18h au studio Kalangou. Bienvenue dans cette édition d'information du 23 mai 2019 au micro Nefis Adam Sirfo. Au sommaire de cette édition, après plus de 5 mois de grève, le syndicat des enseignants des universités publiques du Niger s'est entendu ce matin avec le gouvernement. Le secrétaire général du syndicat enseignant donne des explications dans ce journal. 6 femmes blessées par balle hier au village de Tigezefan. Des précisions sur les circonstances de l'incident avec le maire de la commune d'Abala. En partie magazine de ce journal, nous parlerons d'un centre qui accompagne les petits producteurs agricoles d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Fin de la longue grève des enseignants des universités publiques du Niger. Leur syndicat vient de signer un protocole d'accord avec le gouvernement ce matin. Selon le secrétaire général du syndicat des enseignants, le gouvernement s'est engagé à ouvrir des pourparlers pour trouver un consensus sur plusieurs réformes, mais aussi à payer les arriérés d'enseignants et autres droits statutaires en souffrance. Nabala Adré est interrogé au téléphone par Adama Dawaki.
Le gouvernement accepte le principe de liberté des pourparlers avec le SNEC pour la conduite d'un processus consensuel sur tous les points de la réforme des universités publiques du Niger, y compris ceux déjà engagés. Le gouvernement accepte la restitution des retenues sur salaire procès de grève des militants du SNEC dans le salaire du mois de mai 2019. En contrepartie, le SNEC engage ses militants et militantes à faire des rattrapages en vue de sauver l'année académique en cours. Un arrêté du ministre gérera à fixer un nouveau calendrier de l'année académique 2018. Le gouvernement s'engage à payer intégralement les arriérés des droits statutaires en souffrance au plus tard en août 2019. Le gouvernement et le SNEC conviennent de la création d'un cadre permanent de concertation pour la prévention et la gestion éventuelle des crises universitaires. Elle peut être sauvée puisque les retards sont cas par cas. Par exemple, la phase de lettres, les trimestres impairs sont exécutés, des examens ont été faits seulement sur les copies qui ne sont pas corrigées.
6 femmes blessées par balle hier en milieu de matinée à Tigezefan, un village de la commune d'Abala frontalière avec le Mali. Selon le maire d'Abala, interrogé par Adama Dawaki, c'est un militaire en patrouille qui a ouvert le feu sur des femmes à bord d'un véhicule de transport en commun. Le récit au téléphone du maire Aboubakar Oumarou.
Dans le village de Tigezefan, il y a eu un décès. Maintenant, il y a les gens des villages environnants qui venaient pour présenter les condoléances. Il y avait un véhicule qui venait de Tigezefan Rafi, un village situé à environ 10 km de Tigezefan là. Et il s'est trouvé qu'ils ont trouvé dans le village de Tigezefan, il y a des militaires qui sont en patrouille. Maintenant, à l'entrée du village, donc les militaires ont alerté les véhicules. Ils ont demandé au véhicule de s'arrêter. C'est un véhicule de transport en commun. Et le chauffeur s'est arrêté. Donc après, ils ont demandé aux passagers de descendre. Donc ils étaient descendus. Particulièrement les hommes, y compris le chauffeur. Maintenant, les femmes s'apprêtaient à descendre du véhicule quand un militaire a ouvert le feu au véhicule. On ne sait pas par comment. Je n'ai pas demandé le nombre de femmes dans le véhicule, mais quand même, parmi les femmes, il y a 6 qui étaient blessées. Donc, 2 blessures légères sont traitées au niveau de l'hôpital de Abala. Hier, on les a écrits vers 21h, ils sont arrivés avec l'ambulance. Donc, ils ont eu les premiers soins. Il y a 3 qui ont été évacués à Niamey. C'est vraiment un incident qui est arrivé.
L'arrêt des interventions des ONG internationales dans la région de Tillabéri suite à la dégradation de la situation sécuritaire a poussé les réfugiés maliens du camp de Tabarbaré à faire mouvement sur Ayarou. Comment se présente à ce début de cohabitation avec les habitants de la ville d'Ayarou, suivant les réactions de quelques citoyens recueillis par Abdoulaye Amadou.
Nous souhaitons qu'il y ait une cohabitation pacifique entre nous. Nous aimerions rester soudés comme dans une même famille. Vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait mésentente entre eux et nous.
Nous n'avons aucun problème de cohabitation. Nous les avions accueillis et hébergés avant qu'ils ne retournent dans le camp. Si avec l'insécurité ils sont revenus, nous ne voyons aucun inconvénient en dehors du manque de nourriture que nous-mêmes vivons.
En réalité, nous aimerions avoir de la compagnie, c'est-à-dire des gens avec qui nous allons vivre dans la paix et la quiétude. C'est cela notre souhait et on ne peut pas refuser la fraternité. C'est toujours un plus. D'ailleurs, nous sommes devenus leurs parents maintenant.
Le président du Niger, Issoufou Mahamadou, a présidé hier à Niamey une réunion sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Parmi les participants, l'on a noté la présence des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la France accrédités au Niger. Nous nous sommes engagés à apporter notre soutien continu et à trouver une approche coordonnée consistant à un appui dans le domaine de la diplomatie, le développement et de la défense, a précisé l'ambassadeur des États-Unis, Eric Whitaker, rapporte le quotidien Le Sahel d'aujourd'hui. La décision de maintenir en prison à Zender l'acteur de la société civile Sadat Iliad Malam après l'appel du procureur est une nouvelle injustice pour cet activiste emprisonné depuis plus d'un an, ont déclaré hier mercredi Amnesty International. Tournant la page, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab et Alternative Espace Citoyen. Sadat Iliad devait recouvrer sa liberté lundi après l'abandon des charges par le juge de Zender, mais le procureur du tribunal de Zender a interjeté appel pour le maintenir en détention, souligne le communiqué. Rappelons que Sadat est emprisonné depuis 13 mois, d'abord pour participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État, des faits requalifiés en injures contre les membres du parti politique PNDS Tareya. En ce mois béni de Ramadan, la vente du Moringa au petit marché de Dosso contribue significativement à l'économie de cette région. Importé du Boboy ou de Karakara de l'Arewa, le Moringa est très prisé par les Dossolais, particulièrement les jeûneurs qui en font leur première bouchée au moment de la rupture du jeûne. Le reportage de Aoussi Abdraman depuis Dosso.
La vente du Moringa au petit marché de Dosso est une activité génératrice de revenus pendant ce mois béni de Ramadan au cours duquel sa consommation par la population est trop grande. Connu pour ses vertus thérapeutiques, le moringa vendu à Dosso provient de la commune rurale de Karakara. Le prix varie entre 400 francs et 700 francs le rouleau, selon Zeneidou Garba, revendeur de moringa à Dosso.
Je l'amène de la zone de Karakara. Là-bas, on évalue tout un champ et j'achète tous les moringas à un prix abordable. Et je vends le rouleau à 500 francs. Au cas où je le trouve cher depuis là-bas, j'augmente 100 francs ici.
Cette cliente affirme qu'elle ne peut pas s'en passer du moringa pendant ce mois béni. Elle vient d'acheter le rouleau à 600 francs.
600 francs CFA, nous le trouvons vraiment cher car nous sommes en difficulté financière. On le paye juste pour le besoin de Ramadan au moment de la rupture du jeûne.
Les véhicules transportant le moringa ne font qu'affluer sur le marché. Une dizaine a déjà revendu son contenu tellement la demande est supérieure à l'offre. Certains clients sont insatisfaits car le prix vient de grimper à 700 francs, alors que la bousculade autour des véhicules qui viennent d'arriver prend de l'ampleur.
L'Association des agences de communication et de publicité organise à compter d'aujourd'hui la semaine de la communication à Niamey. Cette association envisage la communication sous l'angle du développement à travers le thème « L'Afrique, terrain d'innovation pour la communication ». Des précisions avec Justin Yao, membre de cette association au micro de Moutari Mahmadou.
Cette rencontre est une initiative de l'ACW, qui est l'ensemble des agences de communication qui se réunissent chaque année pour débattre des thèmes sur la communication essentiellement portée sur l'Afrique. Le Niger participe pour sa première édition et cet événement c'est Africa Communication Week. Et le thème de l'événement c'est l'Afrique, terrain d'innovation pour la communication. Le but de cette rencontre c'est de réunir les professionnels de la communication autour d'un thème spécifique afin de comprendre comment est-ce que la communication peut contribuer au développement de l'Afrique.
Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé hier à Abidjan une aide financière de 128,8 millions de dollars américains au Niger pour la réalisation du projet d'appui au programme Kandaji. À l'occasion, selon les termes du communiqué de l'institution, Akiwumi Adesina, le président de la BAD, a déclaré que c'est un projet extrêmement important pour le Niger où il y a une situation migratoire parce que les gens n'ont pas d'opportunité. quartier et il y a de l'insécurité parce que les gens sont désespérés. Il faut offrir une chance aux gens. La mise en œuvre du projet Kandaji prévu sur 6 ans 2019-2025 consiste en la réalisation d'un barrage à but multiple qui devrait créer un véritable pôle de développement économique dans la région de Tillabéri, peuplée de quelques 3 millions de personnes avec un niveau élevé de fragilité et de pauvreté. Parlons culture à présent au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouche de Niamey. Solène Bossou, chorégraphe et formatrice française, met à profit son séjour pour s'imprégner et apporter une touche à la danse contemporaine au Niger. Selon elle, le niveau des danseurs nigériens est appréciable. Elle est au micro de Mokhtar Hamadou.
J'ai été vraiment agréablement surprise de découvrir leur univers artistique. Ils sont essentiellement formés à la danse hip-hop et aux danses traditionnelles. Mais avec la danse contemporaine, voilà, ça permet d'amener quelque chose de très complémentaire et puis d'ouvrir, comme pour les enfants, l'imaginaire et de trouver d'autres manières de danser, mais en se servant de leur base de danse qu'ils pratiquent ici. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont appris tout seuls, en fait, et qu'ils sont autodidactes. Et ça, c'est aussi une grande différence avec l'Europe ou encore les États-Unis, c'est-à-dire il y a énormément d'écoles de danse, etc., pour pouvoir apprendre. Ici, il n'y en a pas, du coup, ils pratiquent tout seuls. Mais c'est une grande force pour eux parce qu'ils ont vraiment une grande capacité à apprendre, ils sont prêts à apprendre, hyper motivés. Et voilà, ils ont déjà développé des techniques très fortes tout seuls. Donc, je suis vraiment très admirative.
À présent, la partie magazine de cette édition accompagnait les petits producteurs d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le transfert des compétences et d'informer les producteurs sur le développement agricole et rural. C'est le rôle d'un centre spécialisé basé à Bruxelles et financé par l'Union européenne depuis 1983. Ken Laurentor, expert de ce centre, nous explique son utilité dans un entretien téléphonique accordé à Olivier Assogbavi.
Face aux effets du changement climatique, les producteurs locaux sont obligés de développer des méthodes de résilience. La technologie étant d'un apport significatif, un centre international accompagne ces producteurs vers des solutions d'agriculture intelligente. Des précisions avec l'expert Ken Laurentor.
Le CTA a été créé par les pays européens, les pays africains, caribéens et du Pacifique dans l'optique de soutenir le développement agricole et rural, donc dans ces pays africains, caribéens et du Pacifique. Nous avons toujours eu comme point de spécialisation le travail sur l'information, la communication, les nouvelles technologies, un peu pour nous différencier de structures comme la FAO. Nous travaillons également sur l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Et le troisième, c'est tout ce qui concerne la digitalisation, c'est-à-dire l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, les technologies numériques de la communication dans le secteur agricole. Les acteurs du secteur agroalimentaire, comment est-ce qu'ils peuvent davantage utiliser les technologies numériques afin de renforcer la production agricole ou bien afin de renforcer le commerce agricole. Donc voilà à peu près. Maintenant, nous travaillons beaucoup sur les femmes dans l'agriculture.
Quel rapport le Centre technique de coopération agricole et rurale entretient avec les exploitants?
Nous travaillons avec beaucoup d'acteurs agricoles, y compris les exploitants agricoles, et non seulement des jeunes entrepreneurs agricoles, mais également des acteurs qui sont dans l'agribusiness, qui sont soit dans la production ou dans la commercialisation d'exploitation. Donc, nous travaillons beaucoup sur les questions liées aux politiques en organisant, par exemple, des ateliers pour pouvoir discuter de toute innovation concernant, par exemple, les chaînes de valeur. Et dans ces cadres-là, nous invitons soit dans les différents pays dans lesquels ces ateliers ont lieu, les exploitants et d'autres acteurs à interagir.
Est-ce que vous avez des projets que vous avez déjà réalisés au Sahel et au Niger en particulier?
Au Niger, à ma connaissance, nous n'avons pas réalisé un projet spécifique. Nous avions financé un jeune entrepreneur du Niger qui a été lauréat. Dans le cadre du programme de formation sur les médias sociaux dont je parlais, nous avions travaillé il y a 3 ou 4 ans avec le CIPMEN.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention au programme du Studio Kalangou. Le programme se poursuit tout de suite à le forum du Studio Kalangou. Et ce jeudi, le forum est en Hausa. Maman Ada et ses invités nous parlent sur la chèreté des produits de première nécessité pendant le Ramadan au Niger. Quelle alternative pour alléger la souffrance des citoyens? Bonne réception.